Là, nous continuons toujours sur notre thème de la manifestation de Dieu. Et donc là, c'est la manifestation de Dieu en sa parole, avec ce paradoxe que la parole de Dieu, dans l'Écriture, elle est parole de Dieu et en même temps, elle est parole d'homme. Donc on va voir ça. Donc vous avez le plan. Donc d'abord, on aborde la Bible très succinctement, puis en deux, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, puis le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans notre point 3, et dans le point 4, la transmission et l'interprétation des Écritures dans l'Église comme acte de foi. Donc, dans notre introduction, on peut dire que dès le début de cette session de cours, dès le premier cours, nous avons vu, et ça maintenant vous le savez, la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes est variée, et elle a été variée. On peut dire que Dieu a choisi le moment opportun et le moyen opportun pour se faire connaître. Mais il y a une constante, c'est sa parole. Sa révélation, sa manifestation est toujours en lien avec la parole. Et la parole de Dieu est première dans cette révélation. Et donc aujourd'hui, on va aborder l'articulation, comme je vous le disais, entre parole de Dieu et parole d'homme. Puisque l'Écriture a été écrite par des hommes, choisis, inspirés par l'Esprit. Donc on va essayer de répondre aux questions suivantes. S'agissant des Écritures saintes, eh bien, comment pouvons-nous dire qu'il s'agit de la parole de Dieu et dans le même temps dire qu'il s'agit de parole d'homme? Et puis, comment comprendre les paroles des hommes par rapport à la parole de Dieu? Donc, pour cela, on doit faire se rejoindre Écriture et tradition. Et tradition avec un grand T. Parce que ce rapport nous aide à comprendre que Dieu est l'auteur de la parole. Et que les auteurs sacrés, c'est-à-dire ceux qui ont écrit, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, ont été inspirés par Dieu. Et que les auteurs du Nouveau Testament, le Concile Vatican II les nomme les auteurs sacrés, auteurs qui ont été inspirés pour mettre par écrit. Cela veut dire que ces auteurs sacrés entrent dans une tradition de transmission. On n'écrit pas pour écrire, on écrit pour transmettre. Et pour que cela ne s'oublie pas, pour transmettre de génération en génération. C'est pour cela qu'on articule écriture et tradition. Parce que l'écriture elle-même fait partie d'une tradition de transmission. Vous savez, un auteur, même un auteur de roman ou d'essai, écrit toujours avec une intentionnalité. La première intentionnalité, c'est d'être lu. L'écriture, c'est d'être lu, mais c'est aussi d'être transmise. Et donc, cette transmission de l'écriture appartient à la tradition apostolique. Et donc, cette tradition va participer à la transmission de la révélation divine. Alors, pendant que vous écrivez, je peux lire le texte 1 qui est de la Constitution dogmatique Vatican II, Dei Verbum. Il s'agit du paragraphe 7 sur les apôtres et leurs successeurs, héros de l'Évangile. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elle demeure toujours en son intégrité et qu'elle soit transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les apôtres qui, par la prédication orale, par leurs exemples et leurs institutions, transmirent ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, soit par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Donc, dans ce texte de la Constitution, on a déjà les raisons de la révélation. Quelles sont les révélations, les raisons de la révélation ? Ben, c'est le salut de tous. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un salut exclusif. C'est un salut qui concerne tous, toute l'humanité. Et que pour ce salut, pour mettre en œuvre ce salut, Dieu a pris des dispositions. Vatican II nous dit, afin qu'elles soient transmises à toutes les générations. Donc toutes les générations, donc les dispositions du Père en vue que toutes les générations connaissent, que Dieu se révèle à eux et ou à elles, et que Dieu sauve ces générations. Ensuite, que Jésus-Christ, que c'est en lui que s'achève la révélation. Non seulement c'est en Jésus-Christ que la révélation s'achève, mais qu'elle s'accomplit. Et donc, Jésus-Christ ordonne à ses apôtres d'aller annoncer la bonne nouvelle, puis de fonder l'Église. Donc vous voyez qu'il y a une transmission et, on va dire, une transmission et une mission pour les apôtres. Ils doivent transmettre la bonne nouvelle, mais ils ont aussi la mission de fonder l'Église. Transmission et mission. Mais ça veut dire que ce qu'ils transmettent n'est pas une transmission qui viendrait d'une intuition, comme, non. C'est ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de la bouche de Jésus-Christ. Et c'est aussi ce qu'ils ont compris de la manière dont Jésus a vécu et a agi. Y compris, souvenez-vous, les paraboles, quand Jésus explique pour ses apôtres, les paraboles, à eux, à la foule, il tient un enseignement, mais dit-il, à vous, eh bien, il révèle. Il est lui-même la clé qui révèle ce qu'il y a dans les Écritures et précisément souvent dans les paraboles. Et ensuite, les apôtres, leur mission, c'est de rapporter, d'écrire, mais selon, nous dit-il, la suggestion ou les suggestions de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés par l'Esprit-Saint. Et ils écrivent sous l'inspiration de l'Esprit-Saint et non pas sous la dictée. Vous voyez, c'est important de faire cette distinction-là. Écrire sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, cela signifie qu'ils vont écrire comme de vrais auteurs qui décident du moment où ils mettent par écrit, qu'ils décident de la manière dont ils écrivent, qu'ils décident du style de leur écriture comme un véritable écrivain. Mais ce qu'ils écrivent, c'est d'eux-mêmes, mais en même temps, c'est sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, première constatation, on pourrait dire que l'action, elle est trinitaire, puisque l'action de l'Esprit est en œuvre, parce que cette disposition, elle est tenue, enfin, elle est du Père, que la médiation, elle est du Fils, puisque Jésus est le médiateur du Père, et que l'esprit du Père et du Fils, eh bien, vient inspirer les auteurs sacrés. Donc on avait au départ une transmission de la bonne nouvelle qui était orale, et ensuite qui est devenue une transmission écrite. Donc la transmission écrite, on pourrait dire, bah, pourquoi ce qui était oral est devenu une écriture ? Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que le Christ était, le retour du Christ était attendu, c'est ce que l'on appelle la parousie, le retour de Jésus, le retour du Christ. Et donc, tous vivaient dans l'espérance de ce retour imminent. Et puis, cette imminence ne s'est pas produite. Et on n'oublie pas que l'on est dans un contexte d'occupation romaine et même de persécution dans les premiers siècles, jusqu'au IVe siècle, et que la mémoire de ceux qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec lui, eh bien, cette mémoire vive, eh bien, les témoins directs mouraient les uns après les autres. Donc il y a une urgence de mettre par écrit. Donc la décision de mettre par écrit pour les évangiles est d'abord une décision poussée par l'urgence. On ne doit pas oublier et que la bonne nouvelle doit être transmise de génération en génération. Donc toujours se rapporter au contexte qui a fait que la décision, on dit que c'est Marc qui a écrit le premier évangile. Donc voilà, une décision d'écriture. Donc avec la parole de Dieu, on va dire que c'est une parole au départ pour la révélation. C'est une parole qui est prononcée par Dieu et qui est adressée à des personnes en particulier, Abraham, les prophètes. Donc une parole prononcée et adressée. Et puis avec la parole des apôtres et des auteurs sacrés, on est sur une parole qui est annoncée, puisque leur première mission, c'est d'annoncer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et donc, ces paroles qui étaient des paroles orales annoncées sont devenues des paroles écrites et inspirées. Oui.
Oui.
On arrive à notre point grand 1 sur la Bible, justement. Et donc, sur ce point, je vais commencer par vous lire juste quelques petites phrases, quelques mots de Paul Beauchamp, que vous connaissez peut-être, qui est un jésuite, enfin qui était jésuite et théologien et exégète. Paul Beauchamp, il est né en 1924, il est mort en 2001, et il a écrit un livre qui a fait date à l'époque, on est en 87. Voici ce que Paul Beauchamp écrit dans son livre « Parler d'écriture sainte ». Il dit au fond, la question n'est pas tant de découvrir la Bible que d'y entrer. Elle a un dehors et un dedans. Être dehors ou dedans, cela dépend surtout d'une conversion intérieure, d'une entente sur la définition du livre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu vos réflexions tout à l'heure sur presque sur la véracité, ça dépend où on se situe, si on est dehors ou dedans. Et donc définir le livre Bible, eh bien d'abord ça consiste à le considérer comme un objet. La Bible c'est d'abord un livre, donc c'est un objet. Mais ce n'est pas un objet comme les autres, vous voyez ? Ça ne nous viendrait pas à l'idée de prendre la Bible pour caler un meuble, par exemple. Rien que ça. D'emblée, d'instinct, d'emblée, c'est quelque chose qui serait affreux. Mais on doit aussi reconnaître que c'est un objet. Alors si je vous dis ça, c'est parce qu'on ne doit pas idolâtrer l'objet. C'est dans ce sens-là. On a du respect, c'est la parole de Dieu. Voilà, mais ça demeure un livre. Il y a le père Louis-Marie Chauvet, que vous connaissez peut-être, qui est un grand théologien en sacramentaire. Eh bien, le père Louis-Marie Chauvet, il dit La Bible, c'est un objet qui est en attente, et la Bible, c'est un livre qui est en attente, et presque qui est toujours en attente d'être ouverte. C'est cela qui différencie la Bible d'un roman que l'on aurait lu un roman, on l'a lu, on le met dans notre bibliothèque, on passe devant, on lit le titre, on dit « Ah bah tiens, ça c'était bien !» Mais c'est rare que l'on relise deux fois un roman, sauf les classiques, Proust, voilà, c'est différent. Mais la Bible, lui Marie Chauvet dit, c'est un livre qui nous attend. C'est un livre qui est toujours en attente d'être lu. Donc c'est une parole vivante. C'est une parole qui a toujours quelque chose à nous dire au moment où on ouvre le livre. Et quel que soit le moment où on l'ouvre, et quel que soit... Il y a des paroles qu'on a lues il y a 10 ans, qui ne nous ont pas touchées, qu'on peut lire 10 ans après, parce que 10 ans après, on n'est plus les mêmes. Et donc, du coup, notre perception et notre adhésion ou pas à ce que l'on lit s'est transformée. Donc, on a cela, se dire, c'est un objet, mais ce n'est pas un objet comme les autres. C'est un livre, mais ce n'est pas un livre comme les autres, parce que c'est un livre qui nous attend. Qui nous attend toujours d'être ouvert. Oui, dites-moi.
Alors, à quel moment elle devient parole de Dieu ?
Alors, ce n'est pas non plus un objet comme les autres, je viens de vous le dire, c'est un objet de foi également. Hein, votre question montre bien la disposition de la foi dans la reconnaissance de la parole de Dieu, effectivement. Parce que dans ce livre, on peut lire l'histoire de la révélation dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu s'approche de l'homme, comment il s'adresse à lui, et comment il vient lui-même, de lui-même, en personne. Donc on peut aborder à propos de la Bible 3 points. D'abord, la Bible est parole de Dieu et parole d'homme dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Hein, le « comme » il est important, hein, ce n'est pas une autre parole. Que la Bible, et ça vous l'apprendrez très bien avec Roselyne Duporoc, hein, mieux que moi, la Bible elle est constituée d'une multitude de livres. Hein, ce n'est pas simplement un livre. Ta Biblia, c'est la bibliothèque. C'est une multitude de livres qui sont ensemble. Donc c'est l'histoire d'un peuple, donc c'est le livre d'un peuple et le livre de Jésus-Christ, de son événement. Et donc l'Église, elle est garante du dépôt de cette histoire de la révélation de la foi dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Elle est garante du dépôt de la foi, de sa transmission, dans l'Église et par les sacrements. Donc ces 3 points nous montrent que finalement la Bible est complexe parce que c'est un livre qui va révéler une vérité, c'est une parole qui ne nous trompe pas, c'est un livre qui est aussi en lui-même présence de Dieu, hein, on vous disait, ça ne viendrait pas à l'idée de caler un meuble avec une Bible, oui, c'est présence de Dieu, parce que c'est un livre qui contient les paroles du salut, et puis c'est aussi un livre énigmatique, parce qu'il y a des paroles qui sont mystérieuses. Quand on lit l'évangile de Jean, un vocabulaire très simple, mais un agencement particulier qui rend l'évangile de Jean parfois bien mystérieux, compliqué. Donc, c'est aussi un livre énigmatique parce qu'il y a des paroles un peu mystérieuses, il y a des paraboles, donc il faut comprendre et interpréter la parabole, qu'il y a des paroles symboliques et donc voilées. Mais la dernière fois, il me semble qu'on avait évoqué l'importance de l'Ancien Testament, qu'on doit prendre en grande considération l'Ancien Testament. Donc pour les chrétiens, ce n'est pas que l'Évangile, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce serait une erreur, enfin une grave erreur, me semble-t-il, pour la confession de foi, d'amputer la révélation de l'Ancien Testament. Voilà ce que nous dit le paragraphe 11 de Dei Verbum. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacrés et canoniques tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Alors, dans ce texte, on a plusieurs choses. D'abord, on nous dit que ce livre contient des réalités divinement révélées. Donc des réalités. Il ne s'agit pas de choses inventées. Que ces réalités divinement révélées, elles ont été consignées par écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. On nous dit par qui ? Par des apôtres. Et ces apôtres sont des hommes que Dieu a choisis. Donc vous voyez, on revient dans l'idée, enfin non pas dans l'idée, on revient dans la notion d'élection. Dieu se choisit des hommes, les prophètes, et bien là, Dieu choisit des auteurs. Ce ne sont pas n'importe quel homme, n'importe quels auteurs. Et donc ces écrits vont représenter l'héritage intact de ce qu'ils ont reçu, le témoignage intact qui doit être transmis à l'Église et par l'Église, dont c'est la mission de transmettre cette parole et ces écrits. Et c'est pourquoi, nous dit le texte, le paragraphe de Dei Verbum, l'Église reconnaît l'Ancien et le Nouveau Testament comme étant non seulement sacré, mais canonique. Canon, en grec, c'est la règle, c'est la norme. Donc ce sont les textes normatifs de la foi chrétienne et de l'Église. Donc on va maintenant partager à la fois, si c'est bien cela, je regarde, l'Ancien Testament, on va commencer par l'Ancien Testament. Voilà, l'Ancien Testament. La parole de Dieu, c'est notre grand 2, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, alors je répète des choses, hein, mais bon, la parole de Dieu, elle est plurielle, ça vous l'avez compris maintenant, parce qu'elle s'adresse à des destinataires différents et à des époques différentes. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui est longue et qui dure. Donc la parole de Dieu, elle est diverse. Et les premiers destinataires, en dehors d'Abraham et de Moïse, eh ben, ce sont les prophètes qui ont reçu cette parole. Mais ils voyaient bien, ils l'ont reçue dans le contexte de leur époque. Ça veut dire que la parole, à chaque fois, elle est différente. Et donc ceux qui écrivent, eh bien, écrivent avec des genres littéraires différents. C'est ça que font les exégètes aussi. Ils vont identifier les genres littéraires. Parce qu'il peut y avoir des dialogues, il peut y avoir des discours, il peut y avoir des paraboles. Il peut y avoir des oracles.
Il y a les psaumes, les cantiques.
Alors, après, il y a la catégorie des psaumes, voilà, mais voyez bien, on a des genres. Voilà, on a des genres tout à fait différents. Mais dans l'Ancien Testament, les récits vont relater tous des faits historiques qui ont à voir avec l'histoire du peuple d'Israël. On a des récits de bataille, on a des récits de guerre, on a des récits de scission, de séparation. Voilà, on a des récits particuliers. On a aussi, par exemple, dans le Lévitique, une série de codes et de règles qui sont destinées au peuple. Donc des règles alimentaires, des interdits alimentaires, des règles concernant les ablutions avant le repas. Donc on a comme ça Alors, lire le Lévitique, hein, c'est un peu fastidieux, hein, mais voyez, on a des genres tout à fait différents. Toutefois, on peut dire que tous ces récits et tous ces livres se rejoignent parce qu'ils témoignent tous de l'existence du peuple de Dieu, de l'existence du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et que ça concerne ce peuple-là et pas un autre. Alors ça peut être divers, ça peut être multiple, il peut y avoir des genres différents, mais de toute façon ça concerne toujours le même peuple de Dieu. Et ça concerne l'alliance que Dieu a faite avec ce peuple-là. Donc l'Ancien Testament, c'est le témoignage écrit de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Et ces écrits-là, dans l'Ancien Testament, eh bien, vont montrer que Dieu tient ses promesses. Dans l'Ancien Testament, on voit bien le nombre de fois où le peuple est infidèle à Dieu. Voilà, quand Moïse est trop longtemps vers Dieu, ils se construisent un veau d'or. Ensuite, ils veulent avoir un roi comme toutes les autres, comme tous les autres. Donc on voit bien l'infidélité récurrente du peuple dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est tout aussi récurrent dans l'Ancien Testament, c'est la fidélité de Dieu à la promesse qu'il a faite à Abraham. Et que cette promesse, elle s'accomplit, on pourrait dire, presque malgré le peuple, malgré son infidélité. Parce que Dieu demeure de toute façon fidèle, il tient parole. Parce que cette promesse-là et l'accomplissement de la promesse de Dieu, elle fait partie de son plan pour l'homme, de son plan de salut, on parle de dessein de salut. Voilà ce que l'on lit dans le texte 4 que vous devez avoir, c'est juste un verset, celui de Josué 21-45, qui est parallèle au verset 14 du chapitre 23 aussi de Josué, où il dit « De toutes les promesses que Yahvé avait faites à la maison d'Israël, aucune ne manqua son effet, tout se réalisa. » Voilà, un verset qui vient appuyer la réalisation et la réalité de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour son peuple. Et ce verset-là, cette phrase-là, elle est prononcée précisément par celui qui est chargé par Moïse d'amener le peuple en terre promise. Donc les témoignages oraux ont été ensuite mis par écrit pour pouvoir être des témoignages de génération en génération, on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui. Mais mettre par écrit, c'est aussi un acte de foi. Parce que on a parlé tout à l'heure de l'urgence de mettre par écrit. Mais il nous faut maintenant parler de la foi de ceux qui ont mis par écrit. Ils n'ont pas mis simplement par écrit en souci d'historien, comme Luc un petit peu, mais c'est d'abord parce qu'ils ont eu foi, et Luc également. C'est la foi qui les a poussés à mettre par écrit. Ce qui fait que l'écriture, ce que nous lisons dans les écritures, On sait que ce ne sont pas des reportages journalistiques. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ce sont des paroles de vérité. Quand on dit que ça a été écrit avec foi, cela veut dire que ce qui a été écrit est une parole qui ne trompe pas. Donc c'est une parole de vérité. Dès lors, si nous avions la tentation d'aller chercher la véracité dans l'écriture, c'est-à-dire essayer de voir la preuve de ce qui a été écrit, eh bien nous serions dans l'erreur. Parce que si on cherche la preuve, alors c'est qu'on n'est plus dans la foi. Et ce que l'on peut dire, c'est que c'est la foi qui nous fait dire que ce qu'il y a dans les Écritures, Ancien comme Nouveau Testament, est une parole de vérité. Les apôtres ont écrit avec sincérité et vérité ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas cherché à intellectualiser. Ils n'ont pas cherché à écrire comme des intellectuels. Ils ont simplement écrit avec ce qu'ils étaient, et bien ce qu'ils ont vécu, ce qui leur est arrivé. Et ce qui leur est arrivé est pour nous, aujourd'hui qui lisons les textes, un témoignage de foi. Donc la foi, elle est requise dans la lecture des Écritures. Et si on cherche la véracité, la preuve, alors ben, on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Mais ça ne veut pas dire que certains ne peuvent pas le faire. Je veux dire, après tout, pourquoi pas, hein, voilà. Mais vous voyez, il faut toujours se dire d'où je pars, où je me situe quand j'ouvre le livre. Est-ce que je vais le lire en cherchant une preuve ou est-ce que je le lis en me laissant interpeller par ce que je lis. Donc tout cela pour vous dire que l'acte d'écriture est un acte de foi. Ce n'est pas simplement un acte historien, c'est un acte de foi. Alors, on arrive à notre point suivant, 2.1. L'histoire du salut et acte de foi, justement. Cet acte de foi, il doit être témoigné, c'est là où la transmission, elle est importante. Parce que si celui qui lit, lit aussi en comprenant que c'est un acte de foi qui a fait écrire les auteurs, alors celui qui lira, le lira en fonction de cette foi-là. Et à ce moment-là, ce qui est lu peut être peu interpellé. Alors il y a Christophe Théobald, qui est théologien, hein, qui n'est pas très loin d'ici, hein, qui est à la faculté Loyola, lui, il va parler du projet historien de l'écriture. C'est intéressant parce qu'il dit que l'acte de foi devient une condition nécessaire pour réinvestir non pas l'histoire seule, c'est-à-dire l'histoire factuelle de ce qui est arrivé au peuple, mais pour réinvestir le projet historien de l'écriture. C'est comme si, moi je le comprends comme ça, mais je me trompe peut-être, Christophe Théobald nous disait, ou interprétait cela comme ça, eh bien ceux qui ont écrit, en écrivant, ils ont rejoint le projet de Dieu, voulant, désirant, choisissant des hommes particuliers pour écrire, et que ce projet d'écriture, il rejoint un projet historien. Vous voyez, ce projet historien, c'est l'histoire du salut. C'est pas non plus essentiel, hein, si ça vous semble abscon, n'y voyez pas là une nécessité. J'ai trouvé que c'était intéressant. Si on dit que le projet de Dieu, c'est de sauver les hommes, qu'il se donne les moyens pour les sauver par sa parole, puis par son fils, la résurrection de son fils qui est condamné à mort, et que les hommes qui l'a choisi sont choisis pour mettre par écrit, Alors la mise à l'écrit, l'acte d'écriture, elle vient rejoindre le projet. C'est-à-dire que dans le sens où, non, ça ne rejoint pas, c'est pas le projet de salut, mais ça vient rejoindre le projet de Dieu, que cela soit de génération en génération. Et pour que ça soit de génération en génération, ça passe par le projet historien de l'écriture. Parce que quand on met par écrit, ben on veut que ça dure. On veut que ça dure longtemps, que ça dure dans l'histoire de génération en génération. C'est là le projet historien de l'écriture. C'est que ce projet d'écriture intègre une histoire, mais pour toujours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux bien vous dire ? Au mot promesse, puisque je vous ai parlé de promesse, que je vous ai parlé d'alliance, que je vous ai parlé de fidélité, et même, on pourrait dire, d'amour, puisque Dieu se révèle par amour et qu'il donne son Fils par amour, y compris sur la croix, eh bien, il nous faut ajouter un mot important, liberté, concernant les auteurs sacrés, parce qu'ils n'ont pas écrit sous la dictée, ils ont écrit en toute liberté. Donc, la révélation dans l'histoire du salut, elle ne pourrait pas se déployer et se faire sans cette liberté indispensable et sans la liberté du peuple et la liberté de ceux qui ont écrit, avec la liberté d'exprimer de la manière qui leur convenait d'exprimer ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire que chaque évangéliste a écrit, on va dire, l'intrigue, parce que parfois il y a des intrigues, hein, c'est quand même, on peut dire cela, l'intrigue de la manière dont ils l'ont décidé. Et c'est pour ça que le même récit n'est pas écrit de manière parfaitement identique à une autre. Chacun a mis à la manière qui lui convenait le même récit, la même expérience. Parce qu'on pourrait par exemple vivre la même expérience, nous tous ici, la même expérience. Eh bien je pense que chacune et chacun, au moment où on a à le redire à d'autres qui n'étaient pas en même temps que nous, eh bien, chacune et chacun le dirait avec ses propres mots et de manière différente. Ben, les apôtres, ils n'ont pas fait autre chose que cela.
Dans l'Ancien Testament, avons-nous...
Ce que l'on peut ajouter à cela, au fait qu'il y ait une manière tout à fait libre de la part des écrivains sacrés, c'est de voir que cette liberté, elle va intégrer une économie. C'est-à-dire, vous voyez, les moyens que l'on se donne, quand on parle d'économie de Dieu, c'est les moyens que Dieu se donne pour se faire connaître. Eh bien, l'écrivain, dans l'Ancien Testament, c'est notre point de deux, l'économie dans l'Ancien Testament, eh bien, se donne aussi les moyens de mettre par écrit l'histoire de son peuple. Et surtout, de relater l'action que Dieu fait en faveur de son peuple. Puisque c'est ça dans l'Ancien Testament. C'est aussi toutes les actions que Dieu fait en faveur d'un peuple infidèle, récriminant, se plaignant, enfin, de multiples manières. Mais en même temps, un peuple qui vit dans le désert, dans de grandes difficultés.
Oui, donc, 40 ans. Hein.
Voilà, 40 ans, c'est pas juste quelques mois. Donc voilà. Donc il y a, on dirait, un mouvement dit économique de la révélation de Dieu, et c'est un mouvement qui va se déployer à partir d'un centre. C'est-à-dire le centre, c'est le salut de Dieu pour son peuple. À partir de ce centre-là, qui est le salut, toute l'économie peut se déployer, et pour l'Ancien Testament, et pour le Nouveau Testament. C'est la raison de l'incarnation. Et c'est la raison de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est son projet, c'est de sauver les hommes. Ce que l'on peut retenir, c'est que la théologie biblique est une histoire multiforme. Et en même temps, c'est une histoire unique. C'est une histoire unique parce qu'elle contient l'accomplissement du projet de Dieu. Ce n'est pas simplement un plan, un projet qui serait resté en suspens, mais c'est un plan et un projet qui s'est accompli. Qui s'est accompli dans l'Ancien Testament pour l'homme et qui s'est accompli dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ en vue de sauver l'humanité. Et donc c'est une humanité qui est appelée à s'ouvrir à une dimension encore inconnue jusque-là, c'est-à-dire une dimension divine. Une humanité qui est appelée à se défaire de sa lourdeur pour s'élever vers une dimension plus haute, quelque chose de plus haut qu'elle-même, et donc de cette dimension divine. D'être rendu participant, nous dit Dei Verbum, rendu participant de la nature divine. C'est cela aussi l'espérance. Alors, le texte 5, toujours de la constitution Dei Verbum, peut-être pour comprendre un peu mieux, parce qu'on a des textes là, dans cette constitution très belle, des textes théologiques qui expliquent très bien, que je vous conseille de relire. Donc là, c'est le paragraphe 15, l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ sauveur de tous et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme. Non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière, et en eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Donc, on peut rapidement reprendre le vocabulaire. On a déjà le terme de préparer, ce verbe, préparer. Une préparation qui se fait par l'annonce de diverses figures. Ensuite, on peut lire que les livres de l'Ancien Testament vont témoigner d'une pédagogie divine. Voilà, Dieu est pédagogue, une pédagogie divine. Et que les livres de l'Ancien Testament, eh bien, les chrétiens doivent les accueillir avec vénération. Oui, bien, vénération, ce n'est pas avec idolâtrie, hein. Avec vénération. Et les pères conciliaires nous disent pourquoi ? Bien, parce qu'il y a un vif sens de Dieu, parce qu'il y a de sublimes enseignements, parce qu'il y a une sagesse salutaire, qu'il y a d'admirables trésors de prière, et que se tient caché le mystère de notre salut. Ça veut dire que la volonté de Dieu de nous sauver, cette volonté nous échappe. C'est un mystère pour nous. Ça nous échappe. Alors, l'Ancien Testament doit être pris en grande considération et en lien, toujours en lien, avec le Nouveau Testament. C'est notre point 3. On doit prendre en grande considération l'Ancien Testament, eh bien parce qu'il en va même de notre identité chrétienne. Notre identité chrétienne serait tronquée si nous ne lisions pas l'Ancien Testament. Et on le lit à l'Église, on a une partie sur l'Ancien Testament. Voilà. Il y a un lien, et Dei Verbum nous l'a montré, un lien inséparable entre les deux. Parce que ce qui s'est accompli pour le peuple comme histoire, et histoire d'une élection, puisque ce peuple a été élu, eh bien ce qui s'est accompli pour le peuple de l'Ancien Testament, eh bien se poursuit comme identité dans le Nouveau. C'est-à-dire, pour le dire autrement, ce qui a commencé par une élection dans l'Ancien se poursuit comme une identité pour l'autre dans le Nouveau Testament. Élection et identité. Et donc le lien entre les deux peut se comprendre par l'interprétation commune que l'on fait de la manifestation de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Cela veut dire que l'on doit tenir l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne sépare pas l'Ancien du Nouveau. C'est une unité. C'est l'unité de l'histoire de la révélation. Et en théologie, l'unité, c'est la clé de toute interprétation. La Trinité, on a trois personnes en un seul Dieu. L'interprétation, c'est l'unité de la Trinité. Donc toujours penser en termes d'unité. Il n'y a pas deux révélations, mais une seule et unique qui se déploie selon la volonté de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a la parole et la manifestation, et dans le Nouveau Testament, incarnation, enseignement, mort et résurrection. En plus, on pourrait dire que la lecture de l'un aide à la compréhension de l'autre, et vice-versa, qu'il n'y a pas deux histoires de la révélation, mais qu'il n'y en a qu'une. Donc, il y a un mouvement, lorsqu'on lit l'Écriture, un mouvement d'aller et de retour. D'ailleurs, quand on lit le Nouveau Testament, si vous prenez la Tobe, par exemple, eh bien, dans la marge, vous avez les renvois à l'Ancien Testament, parce que ceux qui écrivent connaissent l'Ancien Testament. En revanche, ils peuvent interpréter, c'est-à-dire ils savent à quel moment citer l'Ancien Testament. Donc il y a un aller-retour entre l'Ancien et le Nouveau. Maintenant, on peut voir le point sur le rapport entre écriture-tradition, c'est notre point 3.1, le rapport écriture-tradition dans l'articulation entre Dieu auteur et l'écriture et les auteurs sacrés. Mais peut-être que vous voulez faire une pause.
Oui.
Hein ? Ben oui. Voilà. Allez, on fait la pause. Alors, on en était donc avant la pause dans ce point-là qu'on avait juste, j'avais juste cité l'intitulé, sur le rapport écriture-tradition dans l'articulation entre Dieu auteur de l'écriture et les auteurs sacrés. Donc, je commence par le texte 6 que vous devez avoir, qui est le paragraphe 9, toujours de la constitution Dei Verbum, sur la question de la transmission, et donc du rapport réciproque entre la tradition et l'écriture. Voici ce que nous disent les pères conciliaires. La sainte tradition et la sainte écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent de la même source divine, ne forment pour ainsi dire qu'un tout étendent en une même fin. En effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Donc vous voyez, dans ce texte-là, on pourrait souligner plusieurs choses. Déjà, le lien entre la Sainte Tradition avec un grand T et la Sainte Écriture. Donc il y a dans l'Écriture une tradition de transmission. Et cette tradition de transmission, elle est sainte. Sainte Tradition et Sainte Écriture. Que la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu.
Excusez-moi.
Oui.
La tradition de transmission, c'est presque un pléonasme.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Parce que ce qui est de la, de la tradition, c'est forcément pour être transmis.
Je n'ai pas fait beaucoup de latin, mais
non.
La tradition, c'est même tradéré.
Tradéré.
Transmettre.
Exactement.
On est en vidéo la même chose.
Exactement. Mais vous avez entièrement raison. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour bien montrer que la tradition, avec un grand T, c'est-à-dire la tradition apostolique, elle s'inscrit pleinement dans cet acte de transmission. Et que cette tradition, elle est pour durer, pour être transmise. Donc ça, c'est tout à fait juste. Donc, la Sainte Tradition porte la parole de Dieu, elle la transmet, nous disent les pères conciliens, ce qui rejoint votre remarque. Elle la transmet intégralement à leurs successeurs, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de sélection dans cette transmission. Elle la prêche, la garde, enfin, les apôtres prêchent, gardent, exposent et répandent cette sainte tradition et cette sainte écriture avec fidélité. Donc on voit bien la mise en œuvre qui se fait entre cette sainte tradition et la sainte écriture, d'une transmission qui doit être prêchée, qui doit être exposée pour être répandue. Ce n'est pas une transmission qui serait exclusive ou individuelle. C'est vraiment une transmission qui est large, qui est pour tous. Que la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu et que la Sainte Tradition, elle porte cette parole. Elle ne transmet pas autre chose que la parole de Dieu. Et que pour comprendre la tradition et l'écriture, Ancien comme Nouveau Testament, eh bien, le Christ vient apporter un sens nouveau à cette écriture parce qu'il va dévoiler la révélation par sa vie, sa mort et sa résurrection, et qu'on peut presque dire que Jésus, que le Christ, c'est la clé d'interprétation des Écritures. On comprend les Écritures à partir du Christ lui-même. Les pèlerins d'Emmaüs disent bien, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'ils nous ouvraient les Écritures ? Mais l'intelligence des Écritures ne peut pas se faire sans l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Ce n'est que rétrospectivement, encore une fois, que les apôtres, que les disciples comprennent l'événement qui s'est produit. Parce que la compréhension n'est jamais immédiate. On en fait nous-mêmes l'expérience. Parfois, il nous faut un peu de temps de relire un petit peu ce qui est arrivé pour essayer de comprendre. Eh bien, pour les apôtres, c'est pareil. Il leur faut du temps. En plus, on doit bien reconnaître le choc que cela a été pour eux de voir leur maître et seigneur crucifié sur le bois de la croix.
S'il vous plaît, oui, est-ce que vous pourriez m'expliquer après les deux petits pas et non pas sur...
Bon, bah alors du coup, c'est parfait, j'arrive à la conclusion. Les Écritures sont le fruit d'une rédaction humaine, mais pas au même titre que les autres récits. Car les Écritures témoignent de l'action de Dieu qui se révèle et se manifeste dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais ça aussi, vous le savez, que la rédaction humaine, elle s'est faite après un temps de maturation. Et dans ce temps de maturation, eh bien, il y avait le kérigme, l'enseignement des apôtres, la célébration, la prédication des apôtres, qui confirmait la foi en Christ dans les communautés.
Quelle est l'écriture, l'orthographe du
kérigme? Ah, kérigme, j'ai pas de... C'est, voilà, K, E accent aigu, R, Y, G, R, Y, G, M, E. Ça vient du grec kérigma. Voilà. Donc, tout cela, kérigme, enseignement, célébration, prédication qui confirme la foi en Christ dans les communautés, eh bien, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Et cette bonne nouvelle, elle a d'abord été annoncée, puis elle a été écrite et elle a été proclamée dans l'Église. Donc l'Évangile, on doit considérer l'Évangile comme un héritage à dimension universelle et en même temps il nous concerne personnellement. C'est un héritage qui se vit et qui se partage, qui se transmet de génération en génération par la lecture et par la pratique liturgique en assemblée. Et donc, aujourd'hui, c'est toute l'assemblée chrétienne qui a la responsabilité et la mission de porter l'Évangile et de le transmettre. Et l'assemblée chrétienne, pour terminer, l'assemblée chrétienne ne fait pas que redire des mots anciens, elle fait mémoire d'un événement fondateur, la venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, confessé, Fils de Dieu Sauveur. Voilà.